pas que ce diable, les utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du magazine mensuel et radiophonique Parlons France. Parlons France, c'est votre parole, celle que nous avons glanée aux quatre coins de la région, confrontée aux réactions et à l'analyse d'un ou d'une invitée. Pour vous présenter ce magazine enregistré dans les studios de Planète FM à la Citadelle d'Arras, la pétillante Marjolaine Labelle de Radio Boomerang.
Bonjour Hervé, bonjour à tous.
Le tonique Mickaël Maton de Planète FM.
Bonjour Hervé, bonjour à tous.
Et le humble serviteur Hervé Dujardin de Radio Scarp Sensé, à la réalisation le génial Patrick Marquet, une équipe joyeusement coordonnée par le brillant Bruno Riguet. Notre magazine aujourd'hui s'intéresse à la question de la mobilité en région Nord-Pas-de-Calais. Nous ne dresserons pas un inventaire à la Prévert des différentes offres de transport, mais nous partirons à la rencontre de leurs usagers ou de leurs non-usagers. Les questions de mobilité ne peuvent être exclues des politiques de solidarité. Sans anticiper sur les échanges que nous aurons avec notre invité et sur vos témoignages, il paraît évident qu'une offre inadaptée de transport risque de cliver notre société qui, plus que jamais, doit être égalitaire pour permettre à chacun d'exercer son droit à circuler et à se déplacer. Cependant, les réalités géographiques et démographiques des différents bassins de population de notre région, les capacités ou les volontés des différentes collectivités administrant ces mêmes bassins, ou encore les habitudes de vie de leurs habitants sont autant de facteurs d'inégalité pour exercer son droit de circuler et de se déplacer. Or, à terme, cette complexité à pouvoir simplement se rendre de son village ou de son quartier vers le bourg-centre ou le centre-ville, de chez soi à son travail ou à son école, chez son médecin ou à la permanence d'accueil d'une administration peut être une raison d'exclusion sociale, professionnelle et culturelle. Les enjeux de la mobilité sont donc importants et mobilisent de nombreux acteurs, tant cette question est transversale aux différentes politiques publiques, économiques, environnementales, sociales ou culturelles, pour ne citer qu'elles. Du reste, ce danger pour la cohésion sociale et l'égalité de tous a été identifié par le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Nous parlons donc bel et bien ici de risques. Le CEREMA est une jeune organisation de services créée le 1er janvier 2014, placée sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. L'antenne Nord-Pas-de-Calais du CEREMA a déjà des compétences étendues à la Picardie. Notre invité, Sylvie Maton, est responsable du groupe Mobilité et Territoire du CEREMA Nord-Picardie et avec elle, nous allons nous poser cette question, mobilité pour tous, est-ce que tout roule ?
Parlons Franf, le magazine Made in Franf.
Sylvie Maton, bonjour.
Bonjour.
Sylvie Maton, tout de suite, je signale que vous rencontrez pour la première fois mon collègue journaliste.
Je ne le connais absolument pas.
Mickaël Maton, votre homonyme. Alors, Sylvie Maton, vous êtes issue de l'école de la fonction publique et vous avez également été confrontée aux réalités de terrain. De double formation, universitaire et technicienne, est-ce qu'on peut dire que finalement vous incarnez l'idée et la philosophie du CEREMA qui mêle et démêle les questions liées à la mobilité ?
Je ne sais pas si j'incarne le CEREMA. En tout cas, effectivement, comme vous l'avez justement dit, je suis à l'école de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on est formé pour parler de politique publique et pour essayer de les traduire avec des problématiques de société. Donc on est en interface entre la société, ses enjeux, ses usages, mais on alimente des réflexions qui sont d'ordre de politique publique.
Entre principe et réalité ?
C'est plus compliqué que ça, j'allais dire, entre prospective, c'est-à-dire la capacité de se projeter à 20 ans et de concevoir des outils d'urbanisme, de mobilité, d'aménagement à 20 ans, avec des principes de réalité qui sont qu'est-ce qui est prêt à accepter la société au moment donné où on construit ces scénarios. Donc c'est toute la difficulté d'une politique publique, c'est à la fois d'emmener de l'aménagement du territoire, de la conception de ville, en imaginant ce que pourrait être dans 20 ans, les choix qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir s'y préparer, anticiper, alors que la société civile est plus, elle, l'entreprise, le ménage, le riverain, le commerçant, sur des préoccupations de très court terme, aujourd'hui et maintenant, et pas dans 20 ans. Et donc, entre principe et réalité, notre réalité, c'est d'essayer d'aider les collectivités à composer avec cette difficulté.
C'est justement uniquement aux collectivités que vous vous adressez, c'est pour ça que vous n'êtes pas tellement connu du grand public.
On n'est pas connu, alors vous disiez, on est récent effectivement, on a été créé en janvier 2014, mais en revanche on est des services anciens du ministère de l'écologie, du développement du territoire et du ministère de l'équipement, hein, il y a longtemps, donc on a une certaine antériorité là-dessus, on s'appelle le réseau scientifique et technique du ministère de l'équipement et des transports, pour ceux qui connaissent encore et qui s'en souviennent. Mais donc du coup, notre cible privilégiée, c'est vraiment les décideurs publics, l'État en particulier, le ministère, et puis les collectivités locales, les régions, les départements, les collectivités urbaines, communautés urbaines, communautés d'agglo, les mairies.
Les collectivités vous sollicitent ou vous allez vers elles? Est-ce que vous pouvez être au courant de projets et à ce moment-là donner librement l'avis du CEREMA?
Quand c'est l'État, le ministère par exemple, et qu'il a un projet qu'il finance, qu'il pilote, on appelle ça la maîtrise d'ouvrage, l'État, on est assez naturellement le service d'expertise que l'État missionne. Donc là, on répond à une commande. En revanche, quand on répond à des collectivités locales et régions, départements, on répond souvent soit par appel d'offres, comme n'importe quel bureau d'études privé ou public. On s'inscrit dans la concurrence. Donc on répond à appel d'offres ou on est missionné par l'État pour aider la collectivité parce que la chose est exploratoire. Voilà.
Un service d'aide, c'est bien ce à quoi CEREMA, j'ai envie de la faire. Je l'ai faite tout de suite. Voilà, le CEREMA, ça sert à ça.
À réfléchir en amont et à concevoir les choses, oui.
On va écouter la parole d'usagers et des usagers rencontrés dans le Douaisy avec Ludovic Denequet. Ludovic Denequet est allocataire du RSA et il est représentant de ses allocataires au sein du mouvement Partage et Insertion.
Nous avons fait une pétition sur le retrait des régies RSA, ce qui servait justement à soit pouvoir faire réparer une voiture, à pouvoir payer une assurance ou payer un transport. Ils ont été supprimés donc depuis maintenant plus d'un an, ce qui permettait justement aux parents de pouvoir payer aussi les frais de cantine quand ils devaient aller dans une formation ou simplement se pouvoir avancer l'argent pour pouvoir aller en formation. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore entendus au niveau du Conseil général. Donc la politique aujourd'hui de réinsertion, elle est complètement difficile parce que si les moyens ne sont pas mis concrètement, ça ne peut pas avancer.
Mieux vaut être au RSA en centre-ville à Douai qu'à quelques kilomètres d'ici dans un village?
Bien plus, et puis en plus ça touche le transport, mais ça touche aussi les associations qui viennent en aide, notamment alimentaire, sont plus présentes dans les grandes villes qu'à la campagne. Donc c'est vraiment très très compliqué. Quelqu'un qui par exemple veut aller au Resto du Cœur et qui n'a pas une distribution au Resto du Cœur dans sa ville, c'est très très compliqué pour lui de pouvoir être aidé alimentairement par exemple. L'offre n'est pas adaptée par rapport aux bus. Et en supprimer par exemple les bus pendant les vacances ou pendant les week-ends, ça n'est pas du tout cohérent pour pouvoir se déplacer. Notamment si vous voulez par exemple aller voir simplement un film au cinéma sur Douai, bah, vous pouvez y aller, mais vous ne pouvez pas revenir. Pouvoir aller se déplacer par exemple de Haniche pour venir sur Douai, pour aller sur une action, sur une formation, c'est supprimé aussi. Donc les dotations d'État, ce qu'on appelle vraiment les dotations d'État qui sont liées justement pour la réinsertion sociale, mais aussi pour le transport, diminuent. Et donc la politique aujourd'hui, c'est de ne plus financer.
Un désengagement financier des collectivités constaté également chez les acteurs sociaux. Gérald Laderrière est directeur de l'association cambraisienne SMS Solidarité Multiservices.
En zone rurale ou semi-rurale, les opérateurs de transport ont mis en place justement des cheminements pour essayer de véhiculer les personnes. Le problème, c'est que dès le moment où les personnes doivent aller d'une commune à une autre qui est limitrophe et qui sont espacées de 4 km, là, il n'y a pas de ligne de bus. Donc, soit elles demandent à avoir la possibilité d'un transport par l'intermédiaire d'un taxi. Mais le problème de fond, c'est que ça a un coût. Le coût, justement, à ce niveau-là, c'est que les personnes n'ont pas la possibilité de payer ce coût de transport. SMS, il y a plus d'une dizaine d'années, a mis en place le véhicule solidaire. Le problème, c'est que le véhicule solidaire, c'est un coût. Et le coût de ce véhicule, aujourd'hui, on a toujours des difficultés à maintenir, justement, les subventions. Le deuxième problème de fond par rapport à la mobilité aujourd'hui, c'est que les personnes, également, restent chez elles, ne sortent pas de leur village. Et donc là, c'est un problème de mobilité psychologique. Elles n'ont pas, justement, pour habitude de sortir de chez elles. Donc les référents RSA sur le territoire sont toutes à un moment donné confrontés à des personnes, à des allocataires, des usagers, qui ne veulent pas sortir de chez elles. Quelles sont les raisons pour lesquelles elles ne sortent plus de chez elles? Et c'est là où on intervient, nous.
Aujourd'hui, les politiques de dématérialisation, est-ce qu'on amène véritablement le service à proximité et même chez l'habitant, ou c'est quelque chose qui tend justement peut-être encore à davantage d'isolement?
On parle de dématérialisation dès le moment où on passe par l'intermédiaire de l'ordinateur, d'Internet, pour tout ce qui est démarche administrative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a encore une population aujourd'hui qui n'a pas la maîtrise de l'outil informatique. Le problème de fond, c'est que ces personnes, malheureusement, dès le moment où elles n'arrivent pas à avoir l'ensemble de leurs papiers administratifs faits en temps et en heure, elles sont obligées de se déplacer. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des services aujourd'hui, même par le téléphone, n'arrivent pas à avoir un interlocuteur. Donc ce qui fait que, bah oui, en effet, la dématérialisation fait que on se retrouve à cantonner les personnes dans leur zone rurale, en effet, et elles y restent. Alors, dès le moment où elles sont obligées de se déplacer, là, c'est la croix et la bannière. On a également des personnes, des allocataires du RSA, qui ont un véhicule. On leur pose la question comment ils arrivent à s'en sortir, au niveau financièrement. Ils nous disent, oui, c'est dur, mais on a fait un choix, on a une voiture. Alors la voiture, c'est une vieille voiture, et puis budgétairement, dès qu'il y a une pièce qui nous lâche, comment on fait? On essaie de se débrouiller. Mais ça n'empêche que c'est des personnes qui savent très bien qu'elles préféraient peut-être prendre aussi les transports en commun, ça leur coûterait moins cher. Sauf qu'il n'y a pas la possibilité d'accéder ou d'arriver à l'heure avec les transports en commun.
Une politique tarifaire et des dessertes non adaptées, c'est un constat que partage le groupe des utilisateurs de transport du Douaisy, présidé par Loïc Jaspard.
Il y a un gros fossé entre les élus et les habitants. Les élus eux-mêmes ne sont pas déjà utilisateurs du service transport, donc ne connaissent pas les problématiques que rencontrent les usagers. On a des demandes, par exemple, pour le transport du soir, le transport du dimanche matin. On a souvent des remontées comme quoi le ticket à 1,35€ est cher. C'est vrai que c'est une difficulté pour les familles, mais il faut savoir que ce sont en majorité les impôts des entreprises, donc la taxe versement transport, qui payent les transports, à hauteur de 60% à peu près. Le fait que ce soit ces entreprises qui payent les transports, ça devrait être les travailleurs qui devraient en bénéficier le plus. Sauf que justement, les dessertes ne sont pas forcément envers les emplois. On va prendre l'exemple de la ligne 6. Quand elle vient de Douai pour aller vers Rovinden, elle passe à l'entrée de la zone qui est un arrêt de dépose. Mais au retour, le bus n'y passe pas. Donc on peut aller dans la zone, mais on ne peut pas y revenir. C'est un des problèmes.
Parlons Franf.
Magazine mensuel de la Franf.
La Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Les politiques publiques nous abandonnent. Il y a moins d'argent. Voilà donc le ressenti de personnes en situation précaire. Impression du reste partagée par les acteurs associatifs en lien avec des travailleurs sociaux. La mise en œuvre de politiques tarifaires qui semblent, elles aussi, déconnectées finalement du besoin de desserte des zones d'activité. Sylvie Maton, alors je rappelle que vous êtes responsable du groupe Mobilité et Territoire du CEREMAM, Nord-Picardie, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Est-ce que vous pensez que les questions de politique sociale sont suffisamment intégrées quand on réfléchit mobilité ?
Non.
Vraiment, c'est le grand absent.
Elle commence à être portée très clairement par les territoires. C'est un sujet extrêmement actuel qui anime beaucoup, notamment les collectivités locales, qui posent la question de l'équité sociale et l'accessibilité pour tous, à la formation, au travail, aux services, aux équipements de santé aussi extrêmement importants. Mais j'allais dire... C'est peut-être un peu récent par rapport à des préoccupations où on se préoccupe de la mobilité sous l'angle des gaz à effet de serre et de la pollution, qui a eu cet avantage à la fin des années 2000 d'alerter sur notre modèle de société et à ce rapport extrêmement serré et étroit qu'on a tissé avec la voiture particulière et dont on s'aperçoit que finalement le tout automobile est loin d'avoir garanti l'activité pour tous et que du coup il allait falloir revenir sur ce modèle automobile qu'on a porté tous ensemble depuis 40 ans.
Mais initialement ce sont plutôt des questions d'ordre environnemental qui ont pris le pas sur les questions sociales pour faire... pour faire avancer la pensée des politiques.
Oui, c'est pas qu'elles ont pris le pas, c'est peut-être qu'elles ont été déclencheuses. d'une prise de conscience qu'un modèle de mobilité basé sur le tout voiture et pour lequel la marche, le vélo, le transport collectif représentaient finalement des choses assez accessoires et secondaires, que ce modèle-là avait ses limites en termes de pollution et d'effets sur le climat. Et par voie de conséquence, dans un modèle où aujourd'hui en plus on a du chômage et une crise financière, y compris des collectivités locales qui n'ont plus les moyens de payer de l'infrastructure, tout à chacun, le citoyen, l'entreprise, la collectivité, l'État, commence à se dire qu'il y a finalement le modèle, il a ses limites en termes de pollution, mais il a surtout ses limites en termes de modèle économique et de modèle social. Et aujourd'hui, il serait faux de se dire que ce n'est pas une préoccupation, les enjeux sociaux, puisqu'en réalité, ça commence à être même la préoccupation principale qui est portée par les élus lorsqu'ils réfléchissent à un plan de déplacement urbain ou une politique d'urbanisme. C'était assez intéressant, le reportage. D'abord, il était très intéressant, mais il touchait aussi à la question de l'urbanisme. Si on n'arrive pas à desservir les zones d'activité, là où on a créé des emplois, c'est parce qu'il n'y a pas assez de densité
pour
pas se faire passer un bus.
Pourquoi les territoires s'aménagent plus vite, finalement, que l'offre de transport? Il y a un décalage entre l'aménagement du territoire et l'offre de transport qui va permettre, finalement, d'aller vers ces centres attractifs.
Il n'y a pas un décalage, il y a eu une pensée contemporaine de la voiture qui fait qu'on a pu, dans les années 60, construire des quartiers HLM, des zones d'activité, des centres commerciaux. Rappelez-vous, dans les années 50, on n'avait pas tout ça. C'est parce qu'il y a eu la démocratisation de la voiture, qu'on a construit des routes rapides, que l'urbanisme a aussi s'est recomposé. Et l'un est lié, les deux sont liés. C'est pas l'urbanisme et les transports, c'est l'ensemble. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, extrêmement intéressant. Mais aujourd'hui, on hérite finalement, et ce n'est pas un jugement de valeur, on l'a fait après l'après-guerre, les années 50, les années 60, il fallait reconstruire rapidement et avec efficacité. Aujourd'hui, toute cette organisation du territoire, on l'a bien vu dans le reportage, en ville-centre, finalement, ça pose moins question, puisqu'on est sur des villes un peu historiques, où on avait conçu cet urbanisme pour la marche, le vélo, la voiture qui a pris peut-être trop de place, mais qui offre encore la possibilité à tous de pouvoir se déplacer, entre guillemets, gratuitement. Ce qui n'est absolument pas le cas dès qu'on est dans les zones rurales, dès qu'on va vers du périurbain, les centres commerciaux, les zones d'activité qu'on connaît.
On évoque également dans le reportage les freins psychologiques.
Oui,
ça existe, ça?
Alors ça,
je vous ai prendre des notes et réagir à ce moment-là.
C'est un vrai, vrai sujet et je pense que c'est ce qui est passionnant quand on regarde la mobilité, c'est de ne pas s'apercevoir que chaque individu n'a pas du tout la même perception de distance. On ferait le tour de table là entre nous. Je pense qu'on n'a pas du tout la même conception de ce qui est loin, ce qui est proche. Et ce qui est paradoxal, c'est que les personnes qui sont en situation de mobilité réduite, c'est-à-dire les personnes handicapées, mais personnes qui finalement ont toujours habité le même quartier, qui ne sont pas sorties de leur quartier pour plein de raisons et qui n'ont jamais appris à aller dépasser les frontières de leur commune, d'aller de Lille à Douai, et ne parlons pas des gens qui râlent parce que tous les matins ils font du Lille-Paris. Il y a des gens qui, et beaucoup, beaucoup de nos concitoyens, le Lille-Paris, ce n'est pas leur quotidien. Leur quotidien, c'est qu'ils habitent dans un quartier et que même pour aller à la commune d'à côté, ils ne se sont jamais autorisés à le faire. Et ça, il y a des sociologues comme Éric Le Breton qui l'a très bien démontré. Si on ne travaille pas sur la carte mentale, ce qu'on a dans notre culture, dans notre CD-ROM du cerveau, eh bien, on peut mettre toutes les offres de transport possibles. Ceux qui vont les utiliser, c'est déjà ceux qui savent utiliser la mobilité.
Et il faut également que les urbanistes rentrent dans ces profils psychologiques de chacun afin de faire évoluer les choses.
Alors peut-être que ce n'est pas aux urbanistes. Là, l'urbanisme doit composer les espaces. Mais en revanche, il y a tout ce qu'on appelle le management de la mobilité dans les écoles, dans les quartiers, dans les maisons de retraite pour accompagner les gens et les aider petit à petit à franchir certaines frontières.
Merci pour ces premières réponses. On se retrouve dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous invite à partir et nous empruntons les chemins de traverse avec Fernand, Firmin, Francis et Sébastien, tous en danseuse, bien évidemment, derrière Paulette. Voici la version revisitée du classique d'Yves Montand, À bicyclette.
Quand on partait chemin à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Devant Paulette.
À bicyclette, Yves Montand, version 2015, notre invitée Sylvie Maton, responsable du groupe Mobilité et Territoire du CEREMA Nord-Picardie, centre d'études et d'expertise sur les risques de l'environnement, la mobilité et l'aménagement, dans votre magazine Parlons Franf, sur le thème « La mobilité, est-ce que tout roule ?». Après avoir évoqué en première partie la précarité sociale comme premier frein à la mobilité, penchons-nous à présent sur un potentiel second obstacle, l'enclavement rural auquel les politique essaye là aussi de trouver une solution. L'exemple dans l'Arrajois avec vous, Mickaël Maton.
Oui Hervé, j'ai assisté autour d'une trentaine de personnes à la première réunion publique à la salle des fêtes de Mareuil. Donc c'est un petit village de 2500 âmes dans l'Arrajois du côté du Mont-Saint-Éloi pour découvrir la nouvelle offre TAD mise en place en janvier sur 15 nouvelles communes de la côte urbaine d'Arras. Cette communauté, je le rappelle, comprend 39 communes depuis 2 ans et près de 102 000 habitants. Cette offre de mobilité est gérée par son délégataire de bus urbain Artis. Son directeur Stéphane Monnier explique le concept du TAD.
Le transport à la demande, c'est un service de transport qui vient compléter une offre classique du type bus, essentiellement sur des zones qui sont ou pas desservies pour le bus ou sur des zones creuses. Le gros intérêt, c'est effectivement de ne pas déplacer un bus pour des volumes de personnes qui sont moins importantes et donc d'utiliser un service de taxi qu'on sous-traite sur des horaires définis comme un service de réseau de transport classique.
C'est un service de taxi, mais ce n'est pas un taxi.
C'est réalisé par des taxis, mais ça n'est pas un taxi, effectivement. Il y a quelques contraintes, hein, comme dans un réseau de transport classique, donc devoir prendre son moyen de transport à l'arrêt de bus, devoir effectuer une réservation une heure avant pour qu'on puisse mettre en œuvre le service, puisqu'il n'est mis en œuvre que si on a des réservations, suivre un itinéraire qui est prédéfini et bien évidemment se conformer aux horaires qui ont été définis à l'origine.
Ce sont des horaires assez souples ?
Ces horaires sont figés, mais elles viennent compléter les horaires du service de transport classique et elles sont surtout permanentes du lundi au samedi toute l'année.
Avec une gamme tarifaire de quelle source ?
Alors la gamme tarifaire est parfaitement identique à celle du réseau de transport Artis. Donc vous pouvez utiliser ce nouveau service, ce service TAD, au même prix et dans les mêmes conditions que le reste du réseau de transport, notamment avec le titre unitaire à 1 euro ou la carte jeune ou les cartes seniors à 20 euros l'année.
Le service TAD existe déjà sur la côte urbaine d'Arras depuis quelques temps. On en est où sur le constat ?
On a un développement extrêmement important avec des progressions de l'ordre de 15 à 20% chaque année. J'ai envie de dire, l'essayer, c'est l'adopter.
Avec encore des perspectives ?
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, ce développement effectivement sur les TAD ruraux, sur lequel effectivement on va, je pense, répondre à une demande qui est assez forte. Et on a encore des poches, notamment sur les zones industrielles, sur lesquelles on a beaucoup de demandes, sur lesquelles on travaille également.
Stéphane Monnier, le directeur d'Artis. Françoise Rossignol est vice-présidente mobilité et transport à la communauté urbaine d'Arras, ainsi que maire de Dainville et vice-présidente au Conseil général du Pas-de-Calais. Pour l'élu, il existe une vraie volonté politique.
C'est un choix politique fort de décider que les 39 communes de la communauté urbaine, même elles sont un peu éloignées, que les trajets sont plus coûteux, seront desservies de façon importante, puisqu'il s'agit de 4 allers-retours minimales pour chacune des communes. en plus des transports du Conseil général et des transports que l'on a l'habitude de dire transports scolaires, mais qui sont en fait ouverts à tous. Et donc, nous sommes amenés à offrir dans toutes les communes une vraie possibilité de mobilité pour tous et à des tarifs qui sont extrêmement abordables, qui permettent à chacun d'envisager d'aller faire un tour en ville ou d'aller dans le village voisin, rendre visite ou faire une course ou assurer un rendez-vous médical. Offrir une vraie, véritable mobilité sur l'ensemble du territoire.
Françoise Rossignol, comment vous dissociez, comment vous travaillez par rapport au rural et à l'urbain sur cette mobilité ?
En ce qui concerne le rural, d'avoir une offre minimale. Et donc, le TAD est venu compléter les offres de lignes régulières interurbaines et de lignes du matin et du soir, réservées essentiellement aux travailleurs sur les horaires, je dirais, classiques de travail, par des offres en heure creuse, de manière à ce que, pratiquement à toute heure, de 7h30 à 18h30, il y ait une possibilité de transport. Voilà pour le rural. Maintenant, bien entendu, pour l'urbain, il y a une densité particulière. L'une des réponses originales de la communauté urbaine, c'est la citadine gratuite, parce qu'il faut dire que ces différents transports à la demande peuvent être pris en correspondance avec la citadine et donc peuvent permettre à chacun de se rendre pratiquement dans tous les quartiers d'Arras. Et toujours d'adaptation des différentes lignes de bus aux besoins.
Améliorer la mobilité, est-ce coûteux pour la communauté urbaine d'Arras ?
C'est extrêmement coûteux puisque c'est un budget de plus de 10 millions d'euros sur lequel les recettes de fonctionnement sont ridiculement basses puisqu'elles ne couvrent pas 20% du coût. C'est donc un effort considérable de la communauté urbaine. C'est l'une de ses compétences phares. Nous rentrons dans une période de réflexion et de plan local de déplacement qui devra être mise en œuvre. La meilleure manière d'augmenter les recettes, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de personnes dans les bus. Puisque contrairement au TAD qui n'est payé et mobilisé que s'il y a une demande, les lignes régulières, elles, circulent, même si elles sont vides. L'objectif, c'est qu'elles ne soient pas vides et de permettre de les rendre attractifs et de donner envie à tout un chacun de prendre le bus.
À l'instant, dans Parlons Franf, Françoise Rossignol, vice-présidente mobilité et transport à la communauté urbaine d'Arras, également maire de Daville et vice-présidente du conseil général du Pas-de-Calais. Françoise Rossignol, qui a préféré répondre aux questions de Mickaël Maton plutôt que de répondre au téléphone, lors de la toute première réunion publique de présentation de la nouvelle offre TAD, le transport à la demande d'Arras. Alors, Mickaël, quel était le profil des usagers présents et quelles étaient leurs motivations et leurs réactions au cours de cette réunion ?
Alors Hervé, seulement une trentaine d'usagers des communes concernées avec un profil âge supérieur à 50 ans et pour la plupart inactifs et ou retraités, pas de jeunes ou de jeunes adultes, c'est ce qui m'a étonné. Ensuite, autre étonnement, la plupart des questions tournaient autour des horaires ou des lieux de passage, je le rappelle, identiques aux lignes de bus, mais ennuyeux pour certains, autrement dit, peu ou pas de questions sur la fonctionnalité première de ces transports à demande. Sylvie Maton, êtes-vous étonnée de ces réactions finalement symptomatiques d'usagers rarement, voire jamais contents ?
C'est compliqué comme question. Je ne suis pas étonnée pour deux raisons. Premièrement, parce que le TAD, qui d'entre vous autour de la table connaissiez ce que c'était avant de faire le reportage ? Finalement, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment connu, ce transport à la demande. C'est connu beaucoup des exploitants de transport et puis des personnes, malheureusement, qu'on appelle captives. C'est effectivement les personnes, le TAD à l'origine, c'est plutôt les conseils généraux qui les ont portés pour desservir des zones rurales, pour aider les personnes âgées, aller au marché, etc. Donc, on est sur une forme de transport qui est finalement assez encore... confidentiel, on va dire. Et puis derrière, ça révèle le besoin d'un usager de se dire « Moi, on me donne un TAD, mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir du transport collectif et peut-être même ma voiture particulière. » Donc le mécontentement, il révèle plus le fait que le TAD est pris comme un pis-aller, alors que c'est peut-être le modèle de la mobilité de demain. C'est-à-dire que la voiture a encore de beaux jours devant elle à partir du moment où on accepte de plus la conduire tout seul. 9 fois sur 10, il faut savoir que pour aller travailler, on est tout seul dans sa voiture. 9 fois sur 10. Ça veut dire qu'on consomme de l'espace pour sa voiture, On a 15 mètres carrés au sol, on est tous obèses, en gros, hein, puisqu'on la stationne 95% de son temps. Donc demain, est-ce que la voiture n'est pas faite pour circuler, mais à condition qu'on la remplisse un peu plus? Et dans l'absolu, si elle sert à tout le monde, elle pourrait aussi, quelque part, remplacer certaines lignes de car qui sont vides. Donc on est tout dans cette conception-là, mais aujourd'hui, le citoyen lambda, lui, sa référence, c'est j'ai une voiture, je la conduis et je veux qu'on fasse des stationnements et qu'on double l'autoroute A1 parce qu'il est congestionné le matin. Il n'est pas sur comment je vais remplir mieux mon véhicule. Or, les gens qui sont en TAD, eh bien, peut-être qu'ils sont précurseurs, mais ça ne rendent pas compte. Pour l'instant, ils sont vécus comme captifs.
Sylvie Maton, les élus ne prennent pas le bus. Pourtant, c'est eux qui organisent les transports. Dans quelle mesure l'avis des usagers est réellement pris en compte? Et quelle place pour cette participation citoyenne dans la gestion des transports?
Vous avez des questions compliquées.
Dommage.
La place de la participation citoyenne dans les transports. D'abord, le citoyen, je pense qu'il faut vraiment qu'on en fasse un sujet de société. C'est un sujet extrêmement compliqué. Chacun voit midi devant sa porte et c'est pas un petit mot. Chacun veut l'arrêt de bus devant sa porte, que l'arrêt de bus desserve toute et partie du territoire, de ses déplacements, qu'il arrive à l'heure où il veut, sans se préoccuper que le voisin d'à côté ne va pas avoir les mêmes besoins, que quand on fait des arrêts de bus avec des bus qui passent jusqu'à minuit, la moitié des riverains dorment, mais que c'est peut-être fait pour desservir certaines zones d'activité ou des étudiants pour éviter de revenir, etc. Et ça, c'est notre contradiction de notre société. On trouve ça, le bus, il faut qu'il soit devant chez soi, aussi efficace que la voiture, mais surtout qu'il n'ait pas les nuisances et on reproche qu'il soit vide. Enfin, on est plein de contradictions.
Justement, vaut mieux pousser l'usager à remplir les bus, parce qu'un bus vide ou un bus plein, ça coûte la même chose. C'est quoi? Qui a raison dans ce cas-là? C'est l'usager qui tend à optimiser son déplacement par la voiture en trouvant des personnes à covoiturer, peut-être, ou c'est celui qui va renoncer à la voiture pour prendre le transport en commun?
Je pense pas que ce soit une question de qui a raison ou qui a tort, parce que là, du coup, on met les cyclistes contre les automobilistes. D'ailleurs, c'est un peu le débat actuel, c'est-à-dire tout le monde s'oppose en étant sûr de détenir une parcelle de la vérité de son point de vue. Le problème, c'est est-ce que quand on conçoit des zones d'activité des villes, on donne le choix à l'individu qui veut marcher, qui veut faire du vélo et qui veut aller ensuite se rabattre? Est-ce que c'est grave de devoir marcher 200 mètres pour aller chercher un arrêt de bus, de devoir marcher 500 mètres pour aller trouver une gare TGV? Tout ça, c'est un coût extrêmement coûteux. Et est-ce que c'est grave, surtout, de devoir marcher 200 mètres pour aller chercher sa voiture? Parce que le vrai problème économique, il est que, en moyenne, on stationne à moins d'une minute, France entière, de sa place de stationnement. Donc le problème, il n'est pas est-ce que les cars sont vides, est-ce que... Hein, c'est ce que j'accepte de marcher pour aller chercher un moyen motorisé, quelque chose qui a un moteur. Et donc, c'est toute cette préoccupation qu'il faut mettre au jeu de la société. Et je crois que la marche a un problème dans notre société, puisqu'on l'estime ne pas être un mode de transport, c'est quand même le deuxième mode de déplacement après la voiture.
Et pourtant, la marche, c'est bon pour la santé.
Et pourtant, c'est ça qui est contradictoire dans notre société. C'est-à-dire que les mêmes individus vont dire, et moi la première, qui suis une accro de la voiture, je me plains parce que je devrais faire plus de sport, je me plains parce que mes enfants ne peuvent pas aller à l'école, parce que la grand-mère ne peut plus se dépasser aussi loin. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on est prêt à faire collectivement et à quoi on est prêt à renoncer individuellement.
Avoir le transport pour tous au pied de sa porte, au bon horaire, voilà la solution finalement idéale, mais pas évidente à mettre en œuvre. Sauf peut-être à pouvoir embarquer dans le Magic Bus des OU, dans lequel je vous propose à présent de bien vouloir prendre place.
Takes me to you. I'm so nervous, I just sit and smile. Your house is only another mile.
expect to have no fear. Every day, just to drive to my baby. Throw them 10 sixpence each day, 'cause I drive my baby every way.
Magic Bus, Magic Bus.
Les Who, Magic Bus, dernier volet de ce numéro de Parlons Franf, le magazine des radios associatives du nord de la France, consacré aux questions de mobilité avec notre invité Sylvie Maton, responsable du groupe Mobilité et Territoire au CEREMA Nord-Picardie, centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité et l'aménagement. En tout cas, on l'aura bien compris, ça c'est le CEREMA. Alors, le droit à la mobilité pour tous est notamment précisé dans la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, une loi qui, lors de son adoption, a également établi des obligations en termes de calendrier, n'est-ce pas Marjolaine ?
Oui, selon cette loi du 11 février 2005, les lieux publics et les transports en commun avaient 10 ans pour se mettre en conformité au niveau de l'accessibilité des personnes handicapées. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous avons suivi 3 usagers handicapés pour rendre compte de leur réalité quotidienne. Catherine, handicapée moteur, bénévole au sein de l'Association des paralysés de France et actrice citoyenne dans le cadre des commissions voirie et transport de la MEL, la métropole européenne de Lille.
Se déplacer, ça veut dire ne pas avoir peur des obstacles, des embûches, des voitures mal garées, des poubelles au milieu des trottoirs mal faits, enfin, qui se dégradent. On se bagarre à chaque réunion avec la MEL, mais bon, y a souvent, on nous dit qu'il y a des problèmes financiers et ça doit attendre quelques années. Là, il y avait un trou dans mon quartier qui s'était formé sur une rampe. Il a fallu attendre 2 ans et heureusement, je connaissais une personne à la mairie qui a insisté. Mais sinon, j'ai l'impression qu'on a parlé un peu dans le vent aussi.
Équipée de sa canne, Annie, déficiente visuelle, détermine à l'avance ses déplacements en ville, car pour elle, les embûches peuvent être nombreuses.
Il faudrait plus passage tactile, parce qu'il y a des rues encore qui n'y sont pas, quoi. Il y a des rues aussi où il n'y a pas encore les feux sonores, quoi. Et puis surtout, il y a des rues, moi j'habite sur Fibre, il y a beaucoup de rues où il n'y a pas de feu. C'est un passage protégé, mais c'est au bon vouloir de l'automobiliste. Donc là, c'est, pour nous, c'est très dangereux. Hein. Si après, ça devient que tout le monde aura une voiture électrique, on va être mal. Hein. Il faudra qu'ils mettent des clochettes à leur voiture. Hein. Je ne sais pas, il faudra qu'ils trouvent un procédé quand même pour... Parce que ça, c'est l'avenir, mais pour nous, ça ne nous arrange pas du tout, quoi.
En principe, la loi est prévue pour l'accessibilité de tous les lieux recevant du public. Bon, ça commence à prendre forme, ça commence à venir. Ça se limite vraiment au centre-ville et après, dès qu'on va un peu plus à l'extérieur des villes, bon, la boulangerie avec des marches, le boucher, bon, tous les commerces n'ont pas fait encore l'effort ou n'ont pas encore réalisé les travaux qui, paraît-il, sont assez onéreux. Moi, je trouve que l'accessibilité ne demande pas toujours des gros frais. Il suffit d'être un peu ingénieux et de le vouloir aussi.
Élément.
Le métro est accessible, je pense, grâce à la bataille menée par la PF dans les années 80. C'est un des rares premiers métros accessibles, donc ça, c'est quand même un bon point. Ensuite, les bus, il a fallu attendre quand même assez longtemps pour que les bus aient une rampe. Le tramway est accessible depuis un moment aussi, mais en général, dans la métropole, pour certains transports, j'utilise le transport en dipôle. Il faut réserver un moment à l'avance et on n'a pas toujours ce que l'on veut.
C'est vrai que le quotidien, après, il est compliqué. Hein. Le quotidien, il faut tout caler, il faut tout penser. Vous ne pouvez pas partir d'un bond comme ça quelque part. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Alors, je prends surtout le métro. Donc, en métro, j'ai pas de problème. Je connais le métro comme ma poche maintenant. Et par contre, elle a dit l'arrêt Grand Stade 4 Cantons et on est à la gare. Donc quand la voix se trompe, bon ça va, moi j'ai l'habitude. Et puis quand je vois qu'il n'y a pas la voix dans le métro, parce que des fois il y a des métros qui sont sans voix, quoi. Donc après je compte les arrêts. Hein. Je sais que j'ai autant d'arrêts. Bon au dernier je dois descendre, je descends. On fonctionne comme ça, on essaie de compter les arrêts. Mais on préfère quand il y a la voix, hein. Ça nous facilite la vie quand même.
Le Z.
Et moi, ce que je reproche énormément, c'est les bus. Parce que quand il n'y a pas la voix, on demande de nous dire, mais bon, c'est vrai qu'ils sont fort occupés, ils ne disent pas. Et en plus de ça, ils ferment la porte trop vite. Parce que comme nous, on est déficients visuels, je sais bien qu'ils ont un temps. Hein. Ils doivent se dépêcher. Mais combien de fois je suis coincée entre la porte, quoi. Je dois crier la porte parce qu'ils vont trop vite, quoi. On a beau se mettre prêt à descendre, un déficient visuel, il est quand même plus lent, quoi, voilà. Et puis j'ai un ami qui a eu les deux jambes broyées, hein. Donc moi j'ai peur maintenant.
Moi je trouve que concernant les transports frontaliers, c'est beaucoup amélioré en France qu'en Belgique. En Belgique, il y a plus de retard, quoi.
Christophe, déficient visuel franco-belge, trois fois par semaine, il emprunte les transports en commun de chaque côté de la frontière entre Moucron et Lille.
Il y a deux compagnies, il y a la compagnie française et belge qui sont sur le circuit. Et l'avantage, la compagnie française, Transpol, a une synthèse vocale dans les bus. Tandis que la compagnie belge, c'est le strict nécessaire et puis voilà quoi. Dans les trains... moi, dans le temps, ils annonçaient à tous les gares la station, la gare, mais maintenant ils disent tout au début ou alors pas du tout. Alors, des fois, quand je vois le contrôleur, je dis : vous voulez dire au micro pour l'arrêt ? Oui, oui, monsieur, tout ça. Et je pense que maintenant, ils sont plus, pour moi, plus retardés en Belgique qu'en France. En France, à la rigueur, bon, ils disent les arrêts. Même si quand c'est une voie sur bande, mais en Belgique, c'est vraiment du laisser aller, quoi. Comme on dit, tire ton plan.
Prochain arrêt, place Chaptal.
Reportage de Marjolaine Labelle réalisé en métropole lilloise. Retour dans les studios de Planète FM à Arras. Avec vous, Sylvie Maton, je rappelle que vous êtes responsable du groupe Mobilité Territoire au CEREMA. Penchons-nous sur cette fameuse loi de 2005, Marjolaine.
Oui, on va s'y pencher. On va évoquer des portes de bus qui se ferment trop rapidement, l'absence de la synthèse vocale dans le métro, cette voix qui se trompe parfois. Donc, existence encore aujourd'hui, Sylvie Maton, de nombreuses difficultés de mobilité pour les personnes handicapées. Comment ça se fait qu'on en soit encore à ce stade aujourd'hui, 10 ans après cette loi 2005 ?
Comment ça se fait ? Que toute la société accepte ça et qu'il faille une loi pour pouvoir pousser à éviter ça. Enfin, je pense qu'en mettant les questions de situation de handicap ou de mobilité réduite, c'est-à-dire toute personne qui n'a pas la même faculté qu'une autre, ça peut être un touriste qui connaît pas, qui arrive et qui connaît pas la ville, c'est pas forcément un mauvais sujet, enfin, c'est pas un sujet triste, quoi. Enfin, c'est la ville, elle est faite pour ceux qui la connaissent bien et qui veulent aller rapidement. C'est-à-dire que là, la dame, elle a dit très justement, il y a des voitures en stationnement et des poubelles sur les rues. Premier point. Donc moi, pour marcher, c'était au tout début. Hein. Les principaux obstacles, c'est le stationnement et les poubelles sur les trottoirs. Combien d'entre nous n'avons pas garé une voiture parce qu'on n'a pas longtemps? On en a pour 5 minutes.
Donc
c'est une question de société.
Citoyenneté.
Mais il faut une loi.
Tout de même, Catherine, qui est actrice au sein de la MEL, la Métropole Européenne de Lille, évoque tout de même que pour un trou dans un trottoir, il a fallu 2 ans afin qu'on rebouche ce trou. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté politique pour éviter ces difficultés de mobilité pour les personnes handicapées?
Il y a un manque de volonté politique parce qu'il n'y a peut-être pas de demande très explicite de la société. Encore une fois, vous allez dire que j'exagère. Mais l'automobiliste, lui, ne supporte pas qu'il y ait des trous dans la chaussée. Et donc, comme on est nombreux, on ne supporte pas que la voie circulante soit abîmée. Mais les trottoirs, j'en parlais dans mon introduction de départ, c'est la marche, c'est plus considéré. Donc le trottoir, l'itinéraire pédestre, finalement, c'est peut-être là où on investit le moins. La preuve, c'est que quand on déneige les routes, généralement, on déneige en premier les voies automobiles. Et puis, on met d'ailleurs la neige sur les pistes cyclables et sur le trottoir. Et on ferait ça en France, c'est-à-dire qu'on commencerait à déneiger les trottoirs et les pistes cyclables. Vous verriez si électoralement, c'est entendable. Donc la question du politique, elle est complètement liée au choix de société qu'on est prêt à accepter. Or, en remettant la personne qui a le plus de difficultés à se déplacer, une personne âgée, un enfant ou une personne en situation de handicap ou un touriste, quelqu'un qui ne sait pas lire, on réinterroge les priorités pour notre espace public. Et c'est peut-être pas notre priorité personnelle.
Sylvie Maton, on va sortir de cette métropole lilloise et aller en région, en milieu rural, où parfois il y a une absence de dispositif pour ces personnes handicapées qui sont peut-être obligées de réserver à l'avance.
Tout à fait. Ce qui caractérise les personnes en situation de mobilité réduite, comme le touriste, quelqu'un qui a une difficulté, c'est qu'elle doit encore plus que les autres préparer, parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas aller comme ça spontanément, prendre sa voiture et vérifier qu'il y a un chantier sur l'autoroute, ou etc. Elle ne peut pas, parce que si elle ne s'en préoccupe pas, le coût, non pas financièrement, mais le coût en temps, est sans commune mesure avec quelqu'un de valide. Imaginez-vous, par exemple, qu'aujourd'hui on a des nouvelles technologies, qu'on n'est pas encore capable de dire où est la porte d'entrée accessible, où est l'ascenseur accessible. Et ça éviterait peut-être aux gens concernés de devoir faire 3 fois le tour pour trouver la porte qui leur est accessible. Aujourd'hui, un valide ne se pose pas la question, puisque la signalétique est faite pour la personne valide et on sait où est la porte d'entrée. Donc voilà, c'est question de préparer son voyage et avoir les outils d'information pour préparer et s'adapter. C'est extrêmement important pour les personnes qui sont dans ce cas figure-là. Mais c'est encore une fois pas que des personnes handicapées. Ça peut être l'enfant, ça peut être le touriste.
Et dans ce reportage, Christophe évoque l'exemplarité française par rapport au transport belge. Vous partagez son avis ?
Ah ben ça, je suis finalement assez contente. Enfin, c'est un moindre... Quand on est en difficulté, je pense que ça ne rassure pas du point de vue du technicien que je suis. Et du fonctionnaire de l'État, je me dis que cette loi, heureusement qu'elle était là, parce qu'elle a été en 2005, vous imaginez les colloques avec les collectivités locales, les commerçants aussi pour lesquels ça a été compliqué, parce que c'est coûteux d'adapter, mais qui avaient une obligation de faire, les transporteurs, tout ça coûte énormément. Et finalement, au bout de 10 ans, tout n'est pas encore d'équerre, on va dire. Hein. Mais on s'aperçoit qu'en se comparant à la Belgique, où il n'y a pas eu d'injonction de faire par une loi, et bien finalement, c'est encore pire. Donc je ne dis pas que la loi est une bonne chose, puisque tout le monde la dénie hein, en France, en disant « oui, on aurait... les architectes disent « on n'a pas besoin d'une loi pour aménager la ville ». Ben, faites-moi la démonstration, quoi. Heureusement qu'il y a un moment des lois, avec toutes les difficultés, les normes que ça génère. Enfin, mais s'il n'y avait pas eu de loi, est-ce qu'on n'en serait pas encore comme du côté belge ?
En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Vous évoquiez tout à l'heure la distance qui n'est pas la même pour tout le monde. La notion du temps non plus n'est pas toujours la même. Ça passe très vite, 52 minutes, et nous voici arrivés au terme de cette émission. Une réponse très brève, s'il vous plaît. Votre premier sentiment sur un an d'existence du CEREMA, la structure est adaptée ?
Encore une fois, le CEREMA n'est pas neuf. On était avant des services de l'État qui sont regroupés en établissements publics. Peut-être on sera peut-être plus visible pour le citoyen.
Merci d'être venu chez nous, ici, à Arras, Sylvie Maton. Pour celles et ceux qui souhaitent connaître davantage le CEREMA, il y a un site internet qui existe. L'adresse, c'est www.cerema.fr. Je vous laisse à présent courir, attraper votre bus, votre train, une rame de métro. Autour de cette table, il y avait la pétillante Marjolaine Labelle, le radieux Mickaël Maton de Planète FM.
Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensé.
À la technique, le magique Patrick Marquet. À la coordination, le sublime Bruno Reguet. Le mois prochain, Parlons Franf sera consacré au monde associatif. Il y a un an, le 14 février 2014, l'État et les représentants des collectivités territoriales reconnaissaient l'apport déterminant des associations à la vie démocratique et à la cohésion sociale. Le Premier ministre d'alors décidait même de décréter 2014 année de l'engagement associatif. Malgré ce soutien officiel sans faille, l'année fut plutôt celle du recul et du soutien public à la vie associative qui n'a pas été finalement rendez-vous. Un an après, qu'en est-il d'un monde associatif toujours plus précarisé ? Les associations, une espèce en voie de disparition, éléments de réponse et réflexion dans notre prochain magazine Parlons Franf.